nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, monsieur, bonjour. Focus a décidé aujourd'hui de braquer son projecteur sur la mort de Napoléon, ou plutôt sur la controverse autour de la mort de Napoléon. Et oui, l'empereur a beau être mort depuis presque 200 ans, le 5 mai 1821, les bruits les plus fous circulent sur cet événement, comme si le mythe napoléonien interdisait à l'empereur de mourir de sa belle mort. Deux thèses reviennent régulièrement sur le devant de la scène. La première tend à prouver, de manière d'ailleurs assez scientifique, que l'empereur a été empoisonné. Il s'agit de la thèse dite de l'empoisonnement. La seconde thèse, dite de la substitution, affirme que ce n'est pas le corps de l'empereur qui est aux Invalides, mais celui de Cipriani, son maître d'hôtel. Ces deux thèses ont pris une telle ampleur qu'elles ont fini par installer le doute dans l'opinion. Alors, où en est-on réellement? Sommes-nous face à un complot? C'est ce que nous allons voir maintenant avec Thierry Lenz. Bonjour Thierry Lenz.
Bonjour Laetitia.
Nos auditeurs vous connaissent déjà bien, mais je rappelle tout de même que vous êtes directeur de la Fondation Napoléon et historien. Vous venez de publier avec Jacques Massé « La mort de Napoléon, mythes, légendes et mystères » aux éditions Perrin. Alors Thierry Lenz, était-il nécessaire de revenir sur cette affaire et pourquoi revenir sur cette affaire?
Oui, il était nécessaire d'y revenir maintenant parce que les derniers développements qui ont été donnés à ces deux énigmes que vous citiez ont provoqué, je dirais, un certain émoi et un certain trouble, d'autant qu'ils avaient été portés par un journaliste historien célèbre travaillant sur une grande station périphérique, comme on disait jadis, qui, dans un livre qui s'intitule « L'histoire interdite », a élevé au rang de ses chevaux de bataille ces histoires d'empoisonnement-substitution, d'ailleurs on ne sait plus très bien où ils en sont, avec comme objectif de faire ouvrir le tombeau de Napoléon aux Invalides pour y faire les vérifications ADN ou des visus qui permettraient de prouver, un, que c'est bien Napoléon qui est aux Invalides, et deux, d'essayer d'établir les causes de sa mort. L'origine de cette histoire et de ce livre est, plusieurs émissions que nous avons entendues avec le président de la Fondation Napoléon, Victor-André Masséna. Lui et moi, nous avons été un petit peu interloqués par tout ça et, j'allais dire à sa demande, mais en tout cas avec ses encouragements, j'ai contacté Jacques Massé et avec Jacques Massé, nous avons donc écrit ce petit livre que nous avons voulu être le plus simple possible et à la destination du plus large public possible. Parce que nous avions déjà publié des articles, je dirais, plus scientifiques ou des choses plus confidentielles sur ces sujets et que nous nous sommes bien aperçus que ça ne servait à rien, notamment pas auprès des médias qui, pendant l'été, lorsqu'il n'y a pas de canicule, lorsqu'il n'y a pas d'incendie de forêt ou lorsque le prix des primeurs n'est pas trop élevé, eh bien, cherchent des sujets et tombent toujours, systématiquement sur ce sujet de la mort de Napoléon.
Alors, les deux thèses, que ce soit celle de l'empoisonnement ou de la substitution, sont nettement postérieures à la mort de Napoléon. Mais alors, revenons, je dirais, à la mort de Napoléon. Les circonstances étaient-elles apparues suspectes à l'époque?
Écoutez, je crois qu'il y a peu de morts dans l'histoire qui aient été autant scrutées, regardées, autopsiées même, que Napoléon, puisqu'on dispose d'une batterie de témoignages, d'une batterie de documents autour de la mort de Napoléon, qui fait que même à 200 ans de distance, même sans pouvoir interroger les témoins, bref, en faisant un travail d'historien, hein, c'est-à-dire en allant voir les archives, la documentation secondaire, on ne devrait avoir aucun doute sur les circonstances de sa mort. En résumé, Napoléon était malade, il était malade depuis des mois, il était même déjà malade en arrivant à Sainte-Hélène. Il est mort de toute une série de maladies qui ont été identifiées au moment de l'autopsie que lui-même avait demandé au docteur Anton Marquis, que le rapport d'autopsie qui a été dressé, lorsque vous le montrez aujourd'hui à des médecins, ces médecins vous disent « Napoléon, on ne peut pas vous dire si Napoléon est mort d'un ulcère à l'estomac ou d'un cancer de l'estomac. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que, compte tenu des maladies que nous pouvons identifier à la lecture de ce rapport d'autopsie, il n'est pas étonnant que la personne qui souffrait de toutes ces maladies-là soit morte. » Bien. En 1821, il n'y a pas eu de doute sur les causes de la mort de Napoléon. Il y a une petite campagne en France disant qu'on l'avait empoisonné, mais au sens où, si vous voulez, les Anglais avaient essayé de s'en débarrasser, etc. Mais dès le retour des compagnons de Napoléon qui sont rentrés en Europe en septembre 1821, ils ont publié le rapport d'autopsie, ils ont publié leur propre témoignage et le début de polémique est mort de lui-même, en quelque sorte.
Il faut peut-être d'ailleurs préciser à nos auditeurs que l'autopsie avait été demandée par Napoléon, non pas parce qu'il se croyait empoisonné, mais parce qu'il son père était mort d'une maladie du foie, qui pensait lui-même être atteint du foie et s'était envie de prévenir son fils.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, je crois que c'est plutôt de l'estomac dont Charles Bonaparte était décédé. Mais bon, peu importe, si vous voulez, Napoléon avait demandé cette autopsie qui, en plus, ne devait concerner que la partie thorax et abdomen. Donc, ça veut dire aussi que c'est une autopsie incomplète. Si nous étions des historiens extrêmement sourcilleux, pointilleux, nous dirions qu'il est peut-être mort de quelque chose qui se passait dans la tête, puisqu'on n'a pas autopsié la tête. Bon, on sait quand même très largement, d'après les mémoires des médecins qui ont entouré Napoléon, d'après les témoignages qui ont été écrits, que c'est effectivement de la zone abdominale qu'il a souffert. On a longtemps cru que c'était seulement le foie, une hépatite, des douleurs. Enfin, il était soumis à des vomissements et à des maladies type jaunisse. Et c'est pratiquement au moment où il était trop tard que des médecins ont identifié le mal comme venant de l'estomac. Et en réalité, lorsqu'on a ouvert le corps de Napoléon, on a constaté qu'effectivement, il y avait un ulcère perforé mais bouché par le foie à son estomac, quand même, ce n'était pas un petit trou, c'était un trou qui faisait 7 cm à peu près. Donc, si vous voulez, en principe, tout individu aurait dû mourir sur le coup de la perforation de l'ulcère, parce que c'est gravissime, il y a une hémorragie majeure qui se déclare. Or, le fait que le trou ait été bouché par le foie a permis à Napoléon de survivre. Alors, certains disent quelques mois, d'autres quelques semaines, mais je dirais que là, ça devient du détail médical dont l'historien, finalement, peut assez bien se passer pour donner, non pas un diagnostic, mais une interprétation historique des faits.
Donc, à vous écouter, les documents historiques ne laissent pas de doute. Alors, d'où viennent les doutes et d'où vient la thèse de l'empoisonnement ?
Alors, la thèse de l'empoisonnement est née, enfin dans sa version moderne, est née dans les années 50 en Suède. C'est un stomatologiste suédois qui s'appelait Sten Forusvud qui a, à la lecture des mémoires de Marchand, c'est ce qu'il a dit après, a eu comme une révélation, il a utilisé le mot révélation, c'est que Napoléon avait été empoisonné à l'arsenic, il aurait retrouvé les symptômes de l'empoisonnement. Bon, il se trouve qu'on sait depuis que les mémoires de Marchand ont été publiées en 1955 pour la partie de la mort de Napoléon. Le premier livre de Forusvud a été publié en 1961, donc pendant ces 6 ans, il s'est passé en Suède l'exhumation d'un roi de Suède, Erik XIV, et au cours de cette exhumation, alors il était mort au XVIe siècle, et on a constaté qu'il y avait de l'arsenic, donc on a dit qu'il avait été empoisonné. Alors, ça a été en quelque sorte comme une deuxième révélation pour le stomatologiste suédois, qui a publié un premier livre, qui a eu tout de suite une assez bonne intuition, c'était de dire, allons examiner des cheveux prélevés sur la tête de Napoléon, parce que l'arsenic finit toujours sa course dans les cheveux, c'est-à-dire que, ben oui, le cheveu pousse et il est irrigué de l'intérieur, donc s'il y a de l'arsenic, il se retrouve dans les cheveux. Et c'est parti comme ça. Alors, les historiens français, quelques spécialistes des médecins, notamment le docteur Godlewski à l'époque, ont mis à mal la thèse de Forusvud, qui était une thèse effectivement bâtie un peu de briquet de broc. On n'en a plus entendu parler pendant quelques années, jusqu'au moment où l'homme d'affaires canadien Ben Wider s'est emparé de cette affaire et, grâce à ses moyens financiers qui étaient importants, a réussi à faire de nouvelles analyses et ainsi de suite. Il a payé des historiens, ce qu'il appelait des historiens et ainsi de suite. Donc voilà, Ben Wider avait des moyens, il a fait des campagnes de communication absolument fabuleuses.
Et s'est appuyé sur une recherche scientifique pointue.
Oui, alors une recherche scientifique pointue qui pourrait faire penser, aujourd'hui on pourrait dire, bah oui mais les scientifiques pensent que Napoléon a été empoisonné à l'arsenic. Or, seuls les scientifiques qui ont travaillé commandités par M. Wider arrivent à cette conclusion. Tous les autres mettent en doute les conclusions des laboratoires employés par M. Wider. Le laboratoire de la préfecture de police de Paris, des laboratoires italiens très récemment ont montré qu'il y avait certes un taux d'arsenic élevé dans les cheveux de Napoléon, mais qu'il y avait un taux d'arsenic élevé aussi dans les cheveux de Madame Mère, de Joséphine, de Marie-Louise, du roi de Rome à deux époques différentes de sa vie. Et puis surtout, de l'arsenic dans les cheveux de Napoléon 10 ans, 15 ans avant qu'il aille à Sainte-Hélène. Donc l'idée, c'est de dire, nous qui sommes des historiens et pas des médecins et pas des scientifiques à microscope, nous demandons aux scientifiques de nous donner un élément. qui est un élément secondaire dans notre recherche historique. Le premier élément de la recherche historique, ce sont les documents. Or, il n'y a pas un seul document qui laisse penser qu'on a empoisonné Napoléon. Les scientifiques nous disent qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la conclusion de la présence de l'arsenic. Et en même temps, les mêmes scientifiques nous disent, nous, le rapport d'autopsie, il nous suffit, Napoléon est mort de maladie. Bon, partant de là, je dirais que tout le reste ne tient pas tellement debout. Parce que Benweider et compagnie, enfin et ses amis, ont même désigné un coupable. Le général de Montholon, en nous disant que parce qu'il était responsable des approvisionnements, il avait la clé du cellier, je les cite, hein, et que donc il allait mettre de la poudre de perlimpinpin dans le vin de Napoléon. Enfin, tout ça n'est pas sérieux.
Mais pourtant, cette thèse, comme vous l'avez montré, était établie sur une vraie argumentation, pour nous dire.
Une argumentation, mais qui n'est pas charpentée par de la documentation.
Venons-en à la seconde thèse, oui. Celle de la substitution, là, qui est encore moins fondée que la première.
Oui. Alors là, c'est encore pire. C'est-à-dire, comme je le dis parfois, et je ne veux pas le dire de cette façon pour vexer en quoi que ce soit les substitutionnistes, mais d'un côté, on a quand même des gens qui se donnent la peine d'avoir des analyses de cheveux. De l'autre côté, on a une thèse... pardonnez-moi l'expression, mais totalement délirante, qui prouve qu'au fond, les pieds nickelés ont été libérés.
Rappelons peut-être à nos auditeurs de quoi il s'agit en gros.
Alors, en deux mots, la thèse, c'est que les Anglais ne voulaient garder le corps de Napoléon. Alors, soit parce que, nous dit-on, Wellington avait l'esprit sportif et voulait avoir le corps de son ennemi, ce qui est tout à fait absurde. Soit de l'autre côté, parce que George IV, le roi d'Angleterre, voulait avoir la momie dans son bureau. Enfin, ce qui est encore plus absurde. Bon, ils volent le corps de Napoléon et ils le remplacent par le corps de son maître d'hôtel. Et puis, quand en 1840, on va rechercher Napoléon, évidemment, ce n'est pas Napoléon qu'on ramène en France, c'est le maître d'hôtel.
La thèse s'appuie sur un certain nombre de différences entre l'inhumation et l'exhumation.
Alors, entre l'inhumation de Napoléon en 1821 et l'exhumation en 1840, dans quelques témoignages, il y a des divergences. Alors, il y en a une qui est majeure, qui fonde toute la thèse des substitutionnistes, c'est de dire en 1821, il y avait 3 cercueils emboîtés et en 1840, il y en avait 4. Or, en 1821, il y a un seul document qui parle de 3 cercueils, et c'est important, il est daté du 7 mai 1821. Effectivement, le 7 mai 1821, Marchand dresse un procès-verbal disant qu'on a enfermé le corps de Napoléon dans 3 cercueils, il l'écrit effectivement. Alors, c'est très confus, on pourrait, si on voulait vraiment être les embêtés, on dirait, il dit 3, c'est 4, mais bon, peu importe. Il dit 3. Et puis en 1840, quand on ouvre, effectivement, il y en a 4. Mais ce qu'oublient les substitutionnistes ou ce qu'ils font semblant d'oublier, c'est que le 4e cercueil de Napoléon a été livré le lendemain et que tous les témoignages parlent de 4 cercueils. Effectivement, quand Marchand dit 3 dans son procès-verbal, il a raison, puisque le 7, il n'y avait que 3 cercueils. Lui, il a constaté qu'on avait enfermé le corps de Napoléon dans 3 et ensuite, on a tout. Alors, on a là-dessus le témoignage de l'homme qui a fabriqué les cercueils. C'est-à-dire que lui-même a fait une relation, et il y a les factures d'achat, enfin, et ainsi de suite, aux archives de Jamestown à Sainte-Hélène. Et enfin, il n'y a aucun doute, il y a 4 cercueils en 1821. Donc, partant de là, toute la thèse de la substitution s'effondre.
Alors, les partisans de la substitution et de l'empoisonnement se rejoignent sur un point, c'est qu'ils veulent donc
ouvrir le tombeau de Napoléon.
Mais leur refuser cette ouverture, n'est-ce pas alimenter la théorie du complot?
Pas du tout. Si vous voulez, ils appellent ça l'histoire officielle. Vous savez, comme si ils se mettent à être péjoratifs avec les historiens de métier, on va dire. Et puis, l'histoire officielle, enfin l'histoire de Napoléon, telle qu'elle est établie, en tout cas par les recherches les plus sérieuses. Enfin, il y a 3 historiens qui mettent en doute ce que je vais vous dire. C'est que Napoléon est mort de maladie, qu'il a été enterré à Sainte-Hélène et ramené à Paris en 1840. Eux vous disent, mais il y a des doutes. Mais non, il n'y a pas de doute. Et c'est pour ça que nous avons fait ce livre, c'est pour montrer que, tant sur l'empoisonnement que sur la substitution, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Alors pourquoi aller ouvrir le tombeau de Napoléon, qui est quand même un symbole national? Je dirais que même quand bien même Napoléon n'y serait pas, le monument, et il y est, hein, je vous garantis, le monument est un symbole pour la nation, pour la France, il appartient à la France tout entière, et il n'appartient pas à des personnes qui fondent leur demande sur rien. Alors le jour où il y aura un gros doute, éventuellement, on pourra penser que les autorités examineront leurs demandes. Mais aujourd'hui, comme il n'y en a pas, ce n'est pas la peine d'aller ouvrir le tombeau de Napoléon. Alors certains nous disent, oui, mais on a bien, ouvert le tombeau d'Yves Montand. Je leur fais quand même remarquer, mais c'est parfois difficile à faire comprendre que le tombeau d'Yves Montand et le tombeau de Napoléon, ça n'est pas exactement la même chose, quel que soit d'ailleurs le respect et l'amour que nous avons pour le cinéma et la chanson française.
Thierry Lenz, merci de ces éclaircissements. Pour ceux qui ont encore des doutes sur la mort de l'Empereur, je les renvoie à l'ouvrage que vous venez de publier avec Jacques Massé, La mort de Napoléon, mythes, légendes et mystères, aux éditions Perrin. Au revoir à tous et à toutes et restez bien à l'écoute de Canal Académie.